Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneau.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien.
Voilà, c'est sur cette chanson fétiche de Ray Ventura que je vous accueille, chers débatteurs. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste. Bonsoir à Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférence. Tout va très bien, madame la marquise. C'est pas un peu ce qu'est en train de dire le président Macron avec son pas de panique, tout va bien?
C'est un petit peu ça, en effet. Benjamin Morel. Il y a la volonté aujourd'hui de rassurer une opinion qui très clairement est à cran, mais également de faire passer un certain nombre d'idées qui, il y a encore quelques mois, pouvaient apparaître taboues, notamment le fait que, eh bien, il pourrait en effet y avoir des coupures sectorialisées, etc. Donc on voit que sous un air relativement rassurant, il y a malgré tout des évolutions qui auraient tout de même pu apparaître comme étant relativement paniquantes il y a quelques mois. C'est un emballage de communication qui masque une triste réalité.
On a eu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, on a eu la première ministre en déplacement dans le Tarn qui a confirmé. Maintenant, à peine sorti de l'avion, Emmanuel Macron se précipite dans le studio de TF1 chez ma consoeur Anne-Claire Coudray pour lui dire « Voilà, pas de panique, ça va bien se passer », comme dirait l'autre. Et d'ailleurs, il n'a pas dit « ça va bien se passer ». Jean-Yves Le Borgne, est-ce que le narratif fonctionne, puisque là aussi c'est encore un mot importé des États-Unis?
Évidemment, je trouve que cette annonce de ce qui peut se passer dans quelques semaines, voire dans quelques mois,
ou pas,
absolument, est une bonne chose. Au fond, la peur et le déséquilibre qui atteint nos compatriotes, comme un peu partout les gens dans le monde, c'est ce qui survient et ce à quoi on ne s'attendait pas. À partir du moment où, suffisamment à l'avance, on sait que quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable peut arriver, il y a une sorte d'habitude de l'idée, presque une banalisation de l'inconfort qui fait qu'au fond, bon, d'abord la chose est moins effrayante, et puis assister aussi à l'explicitation des mesures qui sont prises pour que cette privation temporaire d'énergie, si elle survient, ne soit pas insupportable. Moi, voyez-vous, ça me paraît être une manière de gérer la situation qui n'est guère critiquable.
Qui n'est guère critiquable, on en parlait à l'instant avec Bertrand Piccard, Benjamin Morel. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent « mais vous comprenez la guerre en Ukraine ». Finalement, cette question de l'énergie n'est pas que liée à la guerre en Ukraine.
Non, elle n'est même pas d'abord liée à la guerre en Ukraine. C'est vrai que, souvenez-vous du discours de Bormley-Mimosa cet été, où en réalité, on est un Emmanuel Macron qui a un narratif, puisque vous reprenez ce terme. L'idée, c'est que ces coupures d'énergie aujourd'hui, ces restrictions énergétiques hier, sont le gage de notre liberté. Nous luttons aujourd'hui aux côtés des Ukrainiens, en tout cas de manière indirecte, et parce que nous luttons de manière indirecte pour la démocratie, ça implique une crise énergétique que nous payons, mais que nous payons comme, je dirais, dommage de guerre. En réalité, évidemment, ça permet de masquer deux autres débats qui sont plus compliqués à assumer pour le gouvernement, parce qu'on a un gouvernement qui, en 2017, a fait des choix, tout bêtement, et parce que vous avez un gouvernement précédent, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, qui a également fait des choix. Quand vous écoutez, il y a deux jours, devant la commission devant le Sénat, l'ancien haut-commissaire à l'énergie nucléaire qui explique que, grosso modo, la politique énergétique de la France a été à la fois stupide, hypocrite, et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences. Ce sont ces débats qu'aujourd'hui l'opposition essaye de faire monter et que le gouvernement essaye quelque peu de détourner. Il y a un autre type de débat qui est celui de la solidarité énergétique européenne, où aujourd'hui, à la fois à travers le marché européen, on voit que la France est en situation de faiblesse, que l'idée que l'on échange de l'énergie avec l'Allemagne contre du gaz peut également être un élément qui, à un moment, rentrera dans une logique politique, une logique de crise. Le gouvernement préfère ne pas avoir ces débats-là, c'est évident. Et de l'autre côté, vous avez des débats plus pratico-pratiques ou internationaux qui sont plus favorables.
C'est très intéressant ce que vous dites, Benjamin Morel, parce que, et je pense que les Français l'ont oublié, on est quand même dans un week-end de grève SNCF, donc impactante, dans une peur, vous avez repris le mot peur, Jean-Yves, sur ce qui pourrait arriver dans les semaines qui viennent. On a toujours l'inflation, on a toujours des problèmes aussi au niveau éducatif, et pendant ce temps, c'est toujours comme, vous savez, comme dans Tintin, et pendant ce temps, à 3000 km de là, vous avez effectivement, et vous avez employé le mot de l'opposition, vous avez des partis politiques qui continuent à jouer le jeu politique, c'est-à-dire à dire, voilà, ce que fait l'actuelle majorité, c'est pas bien, moi je ferais mieux.
La politique n'arrête jamais.
La politique n'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, mais vous savez quoi ? On arrête là. Arrêtez, juste, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Yves Le Borne, mais il y a encore, voilà, il y a la politique, entre guillemets, politicienne, comme on l'appelle dans notre jargon, qui continue en disant, bah voilà, finalement, il y a un créneau à prendre sur ce côté-là.
Si vous voulez, il y a le principe de l'opposition systématique, institutionnelle, et du fait qu'il faut entrer dans une vision manichéenne pour exister, justement, comme polarité d'opposition. À partir du moment où, je dirais, on fait la part des choses, où on considère qu'un certain nombre d'initiatives, pour ne pas être parfaites, vous citiez l'absence d'autonomie en termes de fourniture d'énergie, qui est d'ailleurs bien meilleure chez nous que dans d'autres pays, mais qui pourrait être encore meilleure, notamment si la politique d'énergie d'origine nucléaire avait été conduite, mais ça...
De manière linéaire.
Voilà, c'est pas dans les 6 derniers mois, ni dans les 3 dernières années que le problème s'est posé. C'est une vieille histoire. En un mot, je pense que la politique, et c'est un peu ce que je percevais, Pierre, dans votre question, de temps en temps, devient indécente à force de ne pas faire la part des choses. Mmh. Et là, on y est un peu.
On y est un peu, Benjamin Morel.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a des débats qui sont légitimes. Et le débat sur notre politique énergétique est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits sous François Hollande, puis ensuite au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'on peut comprendre, mais qui sont des débats et qui ont été des choix essentiellement politiques. Il fallait acheter le soutien des Verts, il a ensuite fallu acheter le soutien de Nicolas Hulot. Et aujourd'hui, si jamais on a des réacteurs qui vont mal, c'est aussi parce qu'on ne les a pas entretenus. C'est aussi parce qu'on n'a pas le personnel aujourd'hui qui n'a pas été formé.
Parce qu'on allait vers une fermeture
progressive. On allait vers une fermeture, c'est ça. Ce choix-là aujourd'hui...
Influencé par l'Allemagne, par les décisions d'Angela Merkel.
Mais ce choix-là aujourd'hui...
Partenaire européen.
Ce choix-là aujourd'hui, il est remis en cause. Et on pourrait dire sans doute heureusement. Mais à ce stade-là, en tout cas, il est trop tard pour pallier aux effets extrêmement rapides de cette crise.
Ma remarque, c'était que... On parle de politique, la politique politicienne ressurgit alors que, et je parle sous votre contrôle à vous deux, je crois savoir qu'on est quand même devant des Français qui, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui est à la tête de cet État, c'est exactement pareil, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre et donc du coup, on n'est pas sûr que le voisin qui justement brandit le drapeau en disant « Regardez, moi si j'étais à la manœuvre, ça serait beaucoup mieux ». Les Français, il nous manque dans notre débat Frédéric Dabi de l'IFOP qui pourrait nous sortir des chiffres, mais je ne suis pas certain que...
Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les grandes crises du dernier quinquennat, vous voyez que paradoxalement, vous avez un attachement au courant politique assez fort dans les prises de position. Je m'explique. Quand vous regardez, par exemple, le dernier confinement ou les confinements, plus vous vous rapprochez de l'électorat du centre, plus vous êtes favorable à la politique du gouvernement. Plus vous vous en éloignez, moins vous êtes favorable. Ça paraît assez idiot parce qu'en réalité, il n'y a pas de courant libéral centriste qui serait plus porteur d'un confinement. Ce n'est pas quelque chose d'idéologique, c'est un problème de politique publique. A priori, que vous soyez de droite ou de gauche, votre opinion sur un confinement ne devrait pas être affectée par ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour une grande partie de nos compatriotes, vous définissez d'abord ou contre le chef de l'État. Et si jamais vous êtes pour le chef de l'État, vous considérez que sa politique est bonne, quelle qu'elle soit. Si jamais vous êtes contre, vous considérez qu'elle est mauvaise, quelle qu'elle soit. Cette politisation, qui est peut-être liée à la Ve République, à la façon dont on se positionne...
Vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui ?
En tout cas, sur les dernières crises jusqu'à présent, ça a toujours été le cas.
Jean-Yves Le Borne.
Je crois qu'à partir du moment, et c'est là que le jeu politique de temps en temps est agaçant, à partir du moment où on se situe dans un camp... Il faut avaler les couleuvres, c'est-à-dire les prises de position majoritaires auxquelles on n'adhère pas nécessairement. Et il faut aussi considérer que dans le camp d'en face, désigné comme l'adversaire, voire comme l'ennemi, tout ce qui se fait est nécessairement critiquable. On parlait du nucléaire. Il y a 50 ans, c'était extraordinaire. C'était la mise en place par le général de Gaulle de l'autonomie en énergie de la France. Et puis, peu à peu...
On faisait des essais nucléaires aussi en Polynésie.
Mais bien entendu.
mais bien on entendu. S'en vantait. Hein.
Mais bien ouais. sûr, mais bien sûr. Et puis peu à peu, le vent a complètement tourné et finalement le nucléaire devenait l'abomination, le risque extraordinaire et il fallait fermer un certain nombre de centrales. Je crois ne pas me tromper en disant que les élections présidentielles, celles qui ont amené le président Hollande à l'Élysée, portait sur l'idée qu'il fallait impérativement, au moins symboliquement, fermer Fessenheim, qui était la plus ancienne des centrales nucléaires. Et au fond, maintenant, on se dit « Ah oui, mais ce serait peut-être mieux qu'on change complètement notre fusil d'épaule. C'est bien joli de dire que le nucléaire est dangereux, mais il faut quand même que je puisse laisser ma lampe allumée. » Alors, on fait comment ? Donc, en réalité, il y a, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, il y a une sorte d'irrationnel dans la prise de position et non seulement la politique est parfois indécente, mais elle est parfois contraire à la raison. Et je pense qu'en suivant cette voie-là, c'est-à-dire en étant incapable de repérer ce qui chez l'autre peut être adopté, on risque de dévaloriser la politique. Et dans un monde démocratique, lorsque le débat politique se dévalorise, même s'il l'a mérité, même s'il l'a cherché, ça pose un vrai problème.
C'est un peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, à Londres ces derniers mois. On a même, à un moment donné, quand Liz Truss a démissionné, on a parlé d'une éventualité du retour de Boris Johnson. C'est-à-dire que c'était... Et je reprends... ce que vous disiez Jean-Yves Le Borne, c'est-à-dire que on a le choix entre, pas la peste et le choléra, mais on a le choix entre voilà, des groupements politiques que finalement on choisit un peu par défaut parce que finalement il n'y a pas grand-chose d'autre de compétent. Voilà.
Oui, c'est vrai. Après, on aurait Jean pu faire la même remarque au 19e siècle, c'est-à-dire que je dirais l'inquiétude vis-à-vis de camarilla politique et d'une politique qui ne vise pas tout à fait l'intérêt général, c'est quelque chose qui est inhérent à la démocratie parlementaire. Comme le disait Churchill, c'est quand même le meilleur des régimes. Mais là, sur l'énergie, il y a quand même des erreurs énormes qui ont été faites.
Churchill disait que la démocratie était le meilleur des régimes,
le pire des régimes,
à condition de ne pas avoir essayé les autres.
Voilà, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres.
Avec l'exception de tous ceux qu'on n'a pas essayé.
C'est ça. Mais si vous prenez la politique énergétique de la France, on a en effet un accord dont François Hollande, d'ailleurs, n'avait pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin des Verts pour gagner les législatives. Pas tant les présidentielles que les législatives qui vont derrière. François Hollande veut une alliance des gauches et donc ce faisant, il donne des gages aux Verts, notamment cette question d'une modification de la politique nucléaire de la France. Il faut voir que cette perspective-là est assez contre-intuitive. Prenez les scénarios du rapport RTE qui trace les perspectives énergétiques de la France qui sont parues il y a un an, deux ans. Et en réalité, que dit le rapport RTE ? On va avoir besoin de plus d'énergie. On va avoir besoin de plus d'énergie, tout bêtement, parce que si vous voulez des voitures électriques, il faut de l'électricité. Et donc, si vous voulez sortir de la dépendance au pétrole, qui pollue, il faut de l'électricité. Si vous voulez réindustrialiser, parce que c'est bien beau de dire on ne fait pas beaucoup de pollution, mais tout bêtement parce que beaucoup des produits, pour être produits, sont produits en Chine, donc on exporte notre pollution. Une bonne pratique écologique serait justement d'industrialiser avec des énergies qui soient des énergies propres. Donc vous avez besoin de plus d'énergie. Le renouvelable, c'est très très bien, mais ça ne permet pas de couvrir ce besoin d'énergie. Donc si jamais vous avez une politique énergétique cohérente, vous devez en tout cas, pour le moment, garder le nucléaire à dessein de produire une énergie plus propre. Cette vision à long terme, nous ne l'avons pas parce qu'en effet, à très court terme, pour François Hollande, Nicolas Hulot pour Emmanuel Macron, nous avons une politique de courte vue et la guerre en Ukraine, là-dessus, n'a été qu'un révélateur de ses errances.